Elle s'appelle Camille Le Talec et il s'appelle Dimitri Hébrard. Ils sont tous les deux chefs de projet artistique chez Palm. Un jour, je croise les réalisations de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. J'aime tout. J'aime le style, j'aime la direction artistique, la mise en scène, les couleurs aussi, le contexte, bref, c'est un vrai coup de cœur. Et j'ai qu'une envie à ce moment-là, c'est de les inviter. De les rencontrer, d'en savoir plus sur eux, sur leur démarche communicante. Bref, de papoter autour d'un sujet, et pas n'importe quel sujet, je parle du design de rue et de la communication visuelle dans nos espaces urbains. Alors, cet épisode va bien au-delà de mes espérances. Il donne le tempo, il nous emmène au cœur du succès des projets artistiques sur la scène urbaine, il y apporte la notion d'art, d'art visuel et de rôle sociétal.
Inventer, réaliser.
Effectivement, c'est effectif.
C'est de l'art ?
Du coup ?
Non, c'est du design.
Et toi ?
C'est quand même du sirop.
C'est de l'art et du design ?
Plutôt des arts.
Non, c'est du sirop.
Des rêves et imagines.
Ah, alors c'est comme du sirop.
C'est comme du sirop. C'est comme du sirop, le podcast du créateur d'idées qui te parle design et communication. Bonjour Camille, bonjour Dimitri.
Bonjour.
Je suis ravie de faire cet épisode avec vous sur le design de rue et surtout avec Palm. En fait, vous êtes tous les deux chefs de projet artistique chez Palm. Palm peint à la main. Une entreprise qui peint les rues pour communiquer avec panache et en peinture sur les murs, sur les sols, mais aussi sur les façades et bien plus encore. Alors Palm, c'est quoi ? C'est plus de 400 projets, j'ai lu sur votre site internet, et c'est plus de 50 000 mètres carrés de fresques artistiques. Alors, c'est quoi ? C'est pour qui ? Moi, je vous laisse tous les deux le micro.
Bon, alors du coup, effectivement, l'entreprise qui s'appelle Pain à la main. On est spécialisé dans la réalisation de fresques artistiques, comme son nom l'indique, peintes à la main. On appartient au groupe Chromologie, donc qui fabrique les peintures Tolins et Zolpan, qui sont assez connues dans le secteur. C'est des marques 100% françaises. Notre entreprise possède deux branches, c'est-à-dire qu'elle a une branche qui s'appelle Monsieur Peinture, qui est spécialisée dans les travaux, rénovation, TCE. Et nous, Pain à la main, on est des chefs de projet, du coup, bah, comme je l'ai dit, dédiés aux projets artistiques et plus particulièrement aux fresques. On a des relations avec énormément de clients différents, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des architectes, des collectivités, des marques, des centres commerciaux, enfin tout le secteur de l'entreprise, pour des œuvres qui vont être la plupart du temps pérennes, mais qui peuvent aussi être éphémères, donc plus liées à de l'événementiel. On peint sur énormément de supports différents. On a l'habitude, alors, qui vont pour nous être des supports assez classiques, mais des façades, des murs, des terrains de sport, la voirie, ce genre d'éléments. Mais on nous appelle aussi typiquement pour peindre des piscines, des bateaux, des infrastructures au bord de mer, donc ils vont avoir des complexités autres, dans le but d'envahir, de réenchanter l'espace, ou d'enchanter tout court d'ailleurs, l'espace urbain.
J'adore envahir. Quand on te dit envahir l'espace urbain, alors, moi, il y a quelque chose qui m'a fait tilt et c'est pour ça aussi que j'avais envie de vous contacter. C'est que votre design sur les terrains de basket, c'est juste incroyable.
Ouais, alors effectivement, l'idée, c'est en 2024, c'est une année vraiment tournée autour du sport, même si on réalise des terrains artistiques depuis plusieurs années maintenant. L'idée, c'est de rendre ces espaces publics beaucoup plus attractifs. De sortir des simples lignes de jeu classiques avec des paniers un peu désuets qui ont plusieurs années pour remettre de la couleur, comme on l'a dit, donc c'est souvent dans des parcs dédiés ou dans l'espace urbain. Maintenant, il y a beaucoup, enfin, on voit beaucoup à Paris en tout cas, des terrains qui sont sous les métros, sous les ponts, ce genre de choses. Donc dans un environnement qui est à la base très gris, très bétonné. Et l'idée, c'est justement de faire une accroche visuelle dans l'espace. Non seulement pour que ça devienne un point de repère, mais aussi pour inciter les gens à venir jouer. Et notamment, alors ça peut paraître peut-être un peu tiré, mais à la base, on travaille sur beaucoup de projets pour les terrains de sport pour inciter notamment la gente féminine à se réapproprier l'espace urbain. Et ça passe souvent par du coup le dialogue avec un artiste pour rendre les espaces plus agréables plus safe et surtout très visible. Parce que beaucoup de gens, maintenant, sur les terrains qu'on a réalisés dans le passé, viennent sur site, viennent se prendre en photo. Il y a une sorte d'attrait touristique. Il y a beaucoup plus de joueurs qui sont amenés à venir. Et ça crée un flux constant où les gens se sentent plus en sécurité, non seulement pour essayer de venir jouer, changer leurs habitudes, chose qu'ils ne faisaient pas avant, créer le dialogue, donc rencontrer les gens qui sont sur site, « Ah, tu penses quoi de l'œuvre ? T'as vu la chose évoluer ?» etc. Et par ce biais-là, avoir de nouveaux publics, dont les femmes.
D'accord. Du coup, ça crée un rendez-vous, j'imagine.
Oui, oui, tout à fait. Et ça crée un rendez-vous et en plus, ça vient vraiment souligner l'identité du quartier, je dirais. Parce que les terrains qu'on réalise sont souvent liés qu'un artiste local, le design fait souvent écho aux différents éléments du quartier. Enfin, il y a tout un dialogue en fait qui se crée. Nous, quand on peint, les habitués viennent nous voir, alors parce qu'ils veulent jouer à la base, mais du coup, ils voient le terrain évoluer petit à petit, on dialogue avec nos équipes, on échange beaucoup sur le projet, parce qu'en fait, une fois que nous, on est partis, les principaux médiateurs, ça reste les usagers, les habitants. Donc, c'est très important pour nous, rien que de les convier au vernissage, pourquoi pas de créer des ateliers avec des associations de quartier pour venir peindre, pour apprendre à jouer, pour le terrain est vraiment un vecteur de communication et de relations non négligeables dans la ville. En plus, évidemment, d'avoir une activité physique qui est indispensable pour la bonne santé de tout humain. Donc, autant rendre ces espaces agréables.
Et qui c'est qui vous passe cette commande ? C'est la municipalité ? C'est la fédération ? Qui c'est qui est derrière ?
Et alors, il y a différents histoires. En fait, chaque terrain a un peu son histoire. Oui, il nous est arrivé de travailler avec les collectivités. Souvent, généralement, ça passe par des appels à projets, mais peu importe. Il y a des terrains qui sont faits par la ville de Paris, on en a fait à Saint-Nazaire. Enfin, il y a beaucoup de villes, en tout cas, qui se mettent à repenser leur design sportif. Et on travaille énormément avec des marques qui, elles, vont vraiment prendre en charge la rénovation, la direction artistique et tous les événements qu'il y a autour. On a réalisé, par exemple, des projets avec des ambassadeurs, type le tennisman Djokovic. On a inauguré des terrains de foot artistique et urbain avec l'équipe de foot 98. C'est un beau point de rencontre pour inciter la jeunesse à venir jouer, à célébrer une personnalité sportive connue et aux marques de venir participer à la vie en collectivité.
Alors, du coup, tu me lances sur l'image de marque. Le fait de parler des marques, effectivement, vous ne faites pas que des terrains de basket, vous faites plein d'autres choses. On parle de peint à la main, c'est vraiment des fresques artistiques et décoratives faites à la main. Vous faites appel à de nombreux collectifs et artistes pour mettre au point vos projets artistiques. Et les marques, les entreprises, mais aussi les mairies, les architectes font appel à peint à la main, font appel à vous. Aujourd'hui, pourquoi les marques, les entreprises ou les collectivités font appel à vous pour communiquer? En fait, c'est utiliser la peinture pour communiquer dans la rue.
Je vais commencer par répondre sur les marques. Et il y a un lien quand même avec les collectivités derrière. C'est vrai qu'on a maintenant un espace urbain qui est assez saturé en termes de publicité, d'affichage publicitaire. Et comme n'importe quelle entreprise, le but d'une marque, c'est aussi de chercher à faire les choses un petit peu différemment pour se différencier en termes d'image, etc. Donc, une intervention artistique et en peinture avec ce côté performance, live, dans la rue, c'est un moyen pour les marques de dire on fait de la publicité, mais d'une manière qui profite à tout le monde, parce qu'on va rendre un lieu beaucoup plus beau, on va financer des projets qui profitent au quartier, et donc aux collectivités, aux habitants, aux usagers. Et puis, c'est un moyen aussi de communiquer avec différents niveaux. Un niveau physique, donc les passages devant les lieux, et créer des contenus qui sont beaucoup plus diffusables sur le reste, qui est donc la communication digitale. Typiquement, quand on fait un terrain pour une marque, quand on fait une façade pour une marque, ou quand une marque, en tout cas, elle finance un projet artistique, on a ce côté événementiel sur place performance, ce côté embellissement. Et puis ensuite, on a une création de contenu que la marque va diffuser sur tous les réseaux. Donc, ça va être du contenu Instagram, TikTok, du spot TV, du contenu pour leur site internet, leur blog, etc. Et donc, avec ce côté performance de la captation vidéo, la captation photo, les marques, elles ont beaucoup plus de contenu à diffuser qu'un simple affichage publicitaire. Et là où ça rejoint un petit peu les collectivités, c'est que les collectivités, elles n'ont pas forcément tout le temps les moyens de rénover des lieux, qui sont des lieux publics et qui profitent à tout le monde. Et c'est là où il y a un peu un travail qui est fait main dans la main entre la collectivité et la marque. C'est que la collectivité met à disposition un lieu qui lui semble utile, donc typiquement les terrains de sport ou une façade qui a besoin d'une rénovation. Et la marque, elle va financer intégralement le projet en s'inscrivant dans ces lieux de vie. Au-delà de cette entente, on a maintenant des directives politiques plutôt au niveau national qui sont des directives de réduction de l'affichage publicitaire dans les villes. C'est aussi un moyen de faire de la communication autrement et de sortir de cet affichage publicitaire dont les villes sont de plus en plus frileuses.
Tu parlais de saturation de l'espace de communication visuelle dans les rues. Nous y sommes, du coup. La peinture, ça permet d'ouvrir l'espace autrement, de se l'approprier, puisqu'on vit. La rue, elle est à tout le monde, au final. On peut l'apercevoir, on peut déambuler, on peut s'arrêter, on peut se prendre en photo. Donc là, tu es en train de nous dire, petit à petit, que cet espace peut devenir aussi un espace d'échange, un lien social, mais aussi un support pour communiquer et envoyer des idées.
Exactement. Et puis, en plus, on est du coup sur des temps beaucoup plus longs. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait son trajet de chez lui jusqu'à son lieu de travail ou de chez lui jusqu'à son terrain typiquement de sport sur lequel il va s'entraîner quotidiennement, quand il y a une réalisation qui prend plusieurs jours à être mise en place avec une évolution de la mise en peinture, de la fresque et les artistes qui travaillent tous les jours dessus, il y a un lien qui se fait aussi avec cet aspect un peu quotidien de l'usager qui va voir évoluer tout au long de la mise en peinture et de la réalisation ces fresques-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'échanges entre les équipes qui interviennent sur place et les habitants, les usagers qui viennent un peu tous les jours les voir, leur demander comment ça se passe, qu'est-ce que ça va être plus tard, comment s'est fait le projet, qui est derrière. On a même typiquement très souvent les artistes qui se font offrir le café tous les matins par les restaurateurs d'à côté, les habitants, etc. Enfin, il y a vraiment un échange entre nos équipes et donc les équipes qui travaillent pour la marque et en fait les personnes du quartier qui pourraient jamais se faire sur un affichage publicitaire classique.
Et Dimitri a raison, en fait on va à l'encontre de la publicité aujourd'hui qui doit être très rapide, les affichages du jour au lendemain, les affichages ça change tout le temps dans le métro. Toutes les semaines, il y a des nouvelles propositions qui sont faites. Et du coup, bah, on est même sur Internet, les fenêtres pop-up, les publicités à la télé. Enfin, tout est rapide, on en mange toute la journée. Et en fait, les projets artistiques, en peinture, vont à l'encontre de ça. Donc, on appelle ça de la slow publicité, donc la publicité lente. C'est des œuvres qu'on voit évoluer, comme disait Dimitri, au fil du temps, qui sont du coup beaucoup plus instagrammables. Parce qu'on va mettre, on va faire la part belle de l'activité manuelle, en fait, que ça évoque, de rénover, de mettre des primaires, de différencier les calques, de faire différentes couches, d'attendre les temps de séchage, etc. Les gens s'arrêtent beaucoup plus pour prendre en photo, partager, de montrer l'évolution de jour en jour, de semaine en semaine. Et c'est une véritable performance, en fait, qu'il y a sous leurs yeux. Chose qu'on n'a pas du tout dans les autres cadres de publicité, où il faut que ça aille vite, où il faut que personne ne voit la personne mettre son affiche, il faut que...
Tu ne crées pas le même événement. La personne qui va faire l'affichage print que l'on colle sur le panneau publicitaire ne va pas susciter le même engouement que toute une équipe artistique qui se déplace, qui projette une esquisse, qui commence à peindre. En fait, il y a un événement qui se crée dès le départ, dès le projet originel, en fait, et qui va perdurer dans le temps jusqu'à son lancement et même après très très longtemps, puisqu'on en fait un lieu de rencontre, de photos, de communication entre petits groupes et puis Intermarque, j'ai envie de dire. Alors, vous êtes au milieu de ça, cette communication, fresque, peinture à la main dans les rues. Au départ, qu'est-ce qui a régi cette façon de communiquer? En fait, pourquoi Palm? C'est quoi Palm pour vous, hein, qui le vivez au quotidien?
Je pense que peint à la main, c'est avant tout un facilitateur sur un secteur qui est assez peu connu. Typiquement, les agences médias, il n'y a pas de personnes qui sont forcément formées à ce type de projet artistique, qui connaissent mal, en tout cas, la scène artistique qui est pourtant très riche en France et qui n'ont pas à développer ces compétences typiques car ça ne va pas être la majorité de leurs projets dans l'année. Je dirais que PAM, on est facilitateur dans le sens où on est ultra spécialisé. On est tous sur le secteur de l'art depuis plusieurs années. On a toujours évolué dedans. On a une connaissance de la scène nationale et en même temps de la technicité que peuvent représenter les chantiers. Et donc, nous, on va venir vraiment comme une valeur ajoutée sur un projet qui est mené à la base par une agence ou pour une marque. Et notre valeur ajoutée, ça va être vraiment d'être les spécialistes sur ce type d'intervention.
Oui, on est un peu des chefs d'orchestre, en fait, je dirais, parce que comme disait Dimitri, on est tous passionnés du secteur de l'art. Tous les chefs de projet chez nous ont vraiment cette passion commune. Aujourd'hui, on travaille avec un réseau qui regroupe plus de 1000 artistes et on va avoir toute cette connaissance autour du savoir-faire, des autorisations, des préconisations techniques. Comme je le disais, on appartient au groupe Chromologie, donc on a un laboratoire de peinture qui nous est dédié. On va avoir toutes ces connaissances des systèmes d'élévation, est-ce qu'il faut qu'on fasse appel à des cordistes, est-ce qu'on a besoin d'avoir des rendez-vous avec les architectes des bâtiments de France et au niveau des DP, les délais.
J'imagine qu'on ne fait pas comme on veut.
Exactement, il y a des déviations de circulation. Enfin, peindre un mur, c'est simple quand on le dit, c'est plus compliqué à...
Ah bon, vous ne prenez pas juste les pinceaux?
Voilà. Et on va jusqu'à la cession des droits d'auteur. Donc, en fait, on est vraiment des chefs d'orchestre. On organise le projet de A à Z, de la direction artistique jusqu'à, évidemment, la réception du chantier. Et ça amène énormément de corps de métiers différents. Et on est là pour mener tout ça à la baguette.
Et si je peux ajouter quelque chose à ce que disait Camille, sur notamment le réseau des artistes, donc plus de 1000 artistes, c'est aussi notre force, c'est que on est capable de sélectionner un artiste qui fait sens dans le projet, que ce soit en termes de compétences, mais aussi de style artistique. Typiquement, en général, une marque et même une collectivité, elle a une identité de marque, elle a une identité graphique, elle a son univers. Et nous, notre but, c'est aussi de trouver l'artiste et d'encadrer l'artiste dans son travail pour correspondre à l'univers et à l'identité de cette marque.
Et il peut être soit local, parce que l'idée, c'est aussi de mettre en avant la scène artistique locale, mais il peut être aussi international, il peut être émergent, il peut être reconnu. Enfin, nous, on a cette richesse, en tout cas, d'artistes qui font qu'en fait, un projet peut prendre mille et une
facettes,
exactement. Et on est vraiment là pour accompagner et proposer quelque chose sur mesure, parce qu'en fait, tous nos projets sont sur mesure. On ne verra jamais deux fois la même fresque.
Là, ça m'intéresse, Camille. Est-ce qu'on peut creuser un petit peu la question? Comment ça se passe quand on veut monter un projet de fresque avec vous?
Alors déjà, on commence par nous appeler. Généralement, c'est l'étape 1. Et après, il va falloir qu'on définisse ensemble quelles sont les attentes et quelles sont déjà les premières idées que le client a en tête. Donc, la nature du support que l'on va investir. Ça peut être des dimensions, la localité. Est-ce qu'il y a des styles artistiques? Parce que nous, on s'y connaît en art, mais peut-être que lui aussi a vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans une expo, dans la rue, des choses qui lui ont parlé. On peut prendre cette base-là. Après, on est évidemment là pour orienter. En fait, on va essayer de creuser le brief client pour essayer de tirer un fil et ensuite de raconter une histoire derrière. Et en fait, ça peut prendre plein de formes différentes. Comme je l'ai évoqué, on a beaucoup, beaucoup de clients très variés. Donc les collectivités, les marques, les constructeurs, les centres commerciaux, et même on assiste même des artistes dans la mise en peinture. Donc chacun a vraiment des attentes et des spécificités très différentes.
Différentes.
Exactement.
Ok. Vous maquettez beaucoup, j'imagine, avant de partir sur la production.
Alors, on maquette beaucoup. En tout cas, on débriefe très précisément ce que, les attentes du client, qu'on traduit évidemment avec nos mots et qu'on vient ensuite traduire à travers une direction artistique qui peut prendre plusieurs champs. Donc, on propose différentes pistes artistiques et on voit en fonction de la sensibilité du client vers laquelle on s'oriente. Et ensuite, on vient proposer différents artistes qui s'insèrent dans ce qui a été validé en amont. Et ensuite, on vient créer une esquisse. C'est une esquisse, on peut en créer plusieurs. Il y a des artistes qui demandent parfois jusqu'à 5 esquisses pour un même projet. Et dans ces esquisses-là, on propose, il y a évidemment aussi des allers-retours. Sachant que là, je vous parle d'un cas qui est assez simple, dans le sens où on a un client et une piste artistique à définir, mais il arrive que nos clients soient une ville, donc ça comprend le maire et les élus, mais aussi l'ensemble des habitants du quartier. Bon, plus on est fou, plus on rit, hein, comme on dit.
Et plus il y a d'allers-retours.
Et plus il y a d'allers-retours. Après, c'est aussi notre rôle de brider, entre guillemets, de donner une orientation et de donner les règles du jeu. Parce que plus il y a de personnes qui participent au projet, plus il va être difficile de toutes les rendre heureuses. Là, c'est aussi fait pour créer le dialogue, la conversation, etc. Mais on ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Mais il est quand même très rare que nos projets ne fassent pas mouche. Parce qu'en fait, on a quand même un sujet qui est globalement très attrayant, où les gens prennent beaucoup de plaisir à travailler avec nous et ça se ressent dans les échanges et du coup dans le maquettage également.
J'imagine qu'il doit y avoir une sensibilité au départ. Quand on se lance sur ce genre de projet, c'est qu'on est un peu acquis à la perception visuelle, aux couleurs, au style artistique. Sinon, ça me paraît compliqué de lancer ce genre de projet.
Pas forcément.
Pas forcément, d'accord.
Ça nous arrive d'avoir des clients qui nous disent, mais d'une manière générale, on adore ce que vous faites. Nous, on n'a aucun savoir, aucune connaissance. On n'arrivera jamais à prendre parti pour quoi que ce soit. On vous fait entièrement confiance.
Ok.
Voici le brief. Et du coup, on part avec eux, quoi.
C'est bien aussi. Vous avez le champ des possibles.
Très intéressant, ouais. C'est passionnant.
Ok. Merci pour les steps. Je vous emmène sur l'impact de la couleur dans les rues. Peindre, généralement, c'est peindre en couleur. Et moi, j'aimerais vous emmener sur ce sujet, sur cet impact, sur la puissance de la couleur dans les rues, si les marques, les collectivités vous font appel. C'est justement pour apporter quelque chose, une final touch qu'on ne pourrait pas avoir avec du papier, par exemple.
Ça va même plus loin. Et je pense surtout quand on parle d'urbanisme tactique, etc. Et qu'on a vu se développer il y a presque 10 ans aux États-Unis et qui commence à arriver en Europe maintenant. C'est-à-dire que maintenant, on a même de l'usage qui va être encouragé par de la peinture et des éléments visuels forts. Donc, pas forcément de l'art, mais en tout cas des éléments graphiques. Donc, on a par exemple le concept des nudges qui encouragent la pratique sportive.
Design actif en français.
Design actif en français. Et maintenant, on va développer en fait dans l'espace urbain, dans les espaces de circulation où il va y avoir plusieurs usagers, type piétons, cyclistes, voitures, etc. On va développer des nouvelles manières de faire et des nouvelles manières de redéfinir des espaces pour encourager à une bonne pratique. Typiquement, quand une collectivité nous contacte pour encourager un cheminement de touristes vers le centre où il y a plus de magasins, je pense notamment à une ville où on a, imaginons, un endroit très spécifique, très touristique, comme un château, comme une église, et on a un centre un peu plus commercial, avec un peu plus de restauration, etc. Ce qui se passe souvent, c'est que la majorité du public qui vient visiter la ville reste sur le point très touristique et puis repart derrière. Le but des villes, c'est profiter de l'attractivité qu'elles peuvent avoir sur plusieurs éléments, comme des sites historiques, sites touristiques, etc., et de faire vivre ensuite la ville grâce à cette attractivité. Et donc là, on va venir créer des cheminements qui vont être encouragés sur de la peinture au sol, de la peinture sur les murs, voire même du mobilier qui sort un petit peu du lot, pour encourager les gens à prendre un chemin et à se déplacer vers des endroits que la ville aura définis. Donc, on a ce type de projet-là, où on a des choses qui peuvent être beaucoup plus sérieuses, comme la sécurité routière, par exemple, Ouais. Là, on va typiquement sur des zones où il y a un petit peu des problèmes entre les usagers, des conflits entre typiquement les piétons, les vélos et les voitures, et qu'on n'a pas forcément la place de construire un terre-plein pour séparer la piste vélo de la voie des voitures ou un trottoir plus large, etc. Et ben, par la peinture, et par de la peinture très forte et qui contraste vraiment avec l'environnement, on va redéfinir les espaces. Donc typiquement, on va redéfinir la piste cyclable avec une intervention forte en couleur. On va faire des points d'attraction visuelle devant les passages piétons pour dire aux conducteurs, attention, là, il y a des piétons, il y a des enfants qui traversent. Et toutes ces interventions-là, en fait, on va pouvoir étudier derrière, donc créer des vraies statistiques, les changements de comportement. Avec, par exemple, une zone où il y a des problèmes de vitesse, où les voitures ne laissent pas passer les piétons et où ne respectent pas les distances de sécurité avec les vélos. On va avoir tous ces problèmes-là qui sont étudiés sur la zone. Nous, on va venir intervenir en faisant des éléments graphiques en peinture, en redéfinissant les espaces. Et puis ensuite, on va reprendre tous les éléments en mesure, donc typiquement la vitesse, les conflits et les études de comportement. Et en fait, on va avoir des pourcentages qui sont assez impressionnants sur la réduction justement de tous ces problèmes-là.
Ouais, parce qu'en fait,
c'est super intéressant.
Naturellement, voilà. Les piétons, ils vont traverser au niveau de passage piéton, notamment les enfants, parce qu'ils vont voir que c'est très coloré, très vif, donc ils vont plus vouloir traverser n'importe comment au milieu de la route. Les automobilistes, ils vont se dire « Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, j'ai pas l'habitude de voir ça. » Exactement. Et pareil, les cyclistes, ils vont se dire « Ah, mais moi, j'ai une super bande de couleurs où je peux justement pédaler, je vais pas du tout aller sur le trottoir d'à côté tout moche. » Donc, naturellement, les gens sont incités à avoir un comportement beaucoup plus citoyen et à se respecter les uns les autres.
Et inversement, sur les cyclistes, avec les automobilistes, en fait, on s'est apparu qu'une simple...
Ça peut être conflictuel, parfois.
Ouais, déjà. Et en fait, c'est vrai que naturellement, un conducteur, il va suivre des lignes qui sont tracées sur le sol. Donc, typiquement, ça arrive rarement qu'une voiture, elle roule sur la voie d'en face quand les deux voies sont séparées au milieu par des traits. Et ben nous, on utilise un petit peu ces comportements naturels pour les utiliser à bon escient. Et donc, moi, l'exemple principal que j'ai en tête, c'est on avait un carrefour avec une voie cyclable en contresens et les voitures qui tournaient dans une rue. Et ce qui se passait, c'est que les voitures, elles tournaient, donc elles coupaient le virage pour entrer dans la rue et les vélos arrivaient dans l'autre sens sur ce même virage. On s'est rendu compte qu'en fait, en faisant simplement un élément graphique qui venait bien recontourner l'angle du virage, les voitures, naturellement, elles ne coupaient plus la trajectoire, elles prenaient beaucoup plus large ce virage, et donc les vélos qui arrivaient de l'autre côté ne se les prenaient pas en pleine face.
Là, on parle de design actif, vous m'avez dit, ça se rapproche de la scénographie, j'ai envie de faire un petit peu ce parallèle, mais du coup, c'est puissant. C'est un support puissant de sociabilité et de faire respecter les zones juste grâce à la couleur en habillement graphique. C'est quand même assez exceptionnel.
Bah, c'est de sortir un peu des panneaux d'interdiction rouges, enfin des couleurs très criardes, interdit. Ouais. Et de prendre en fait dans le sens inverse, en étant plus positif, en apportant déjà plus de gaieté dans l'espace urbain, parce qu'encore une fois, on ramène quand même de la couleur, des choses assez sympas. Et d'inciter les gens à avoir un meilleur comportement.
Ouais, c'est génial, c'est super ludique. C'est très, très ludique. J'apprends le design actif. Merci. Je vous emmène tout doucement, comme on est sur le design actif, sur la couleur des rues, sur le street art et sur la communication visuelle. La fresque, c'est votre dada. Vous travaillez énormément avec plein d'artistes et j'imagine que le street art fait partie de votre ressource en interne. Aujourd'hui, le street art a pris sa part belle. C'est vraiment un petit peu le revanchard puisque dans, on va dire, canal anti, il est devenu complètement communicant et aujourd'hui, on s'en sert énormément comme outil ou support de communication. Est-ce que vous pouvez me donner votre avis, votre perception aujourd'hui du street art version communication?
Ouais, alors bon, c'est vrai que le street art, donc l'art de la rue Roubaix, ça fait quand même, je dirais, une bonne quinzaine d'années que nous, on le voit vraiment, enfin moi en tout cas, je vais parler peut-être en mon nom cette fois, je le vois vraiment très à la mode, entre guillemets, dans le milieu de l'entreprise, des collectivités, etc., qui était évidemment très boudé à une époque. Et aujourd'hui, je dirais que dans la plupart de nos projets, nos clients ne recherchent pas ce côté graffiti et urbain. Ils vont chercher des graphistes, des peintres, des muralistes, vraiment des tableaux, je dirais, XXL. Alors, le street art, enfin, les artistes street art peuvent aussi faire des tableaux, je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas du tout dans la même énergie et le même apport visuel. Bon, Dimitri, arrête-toi si je me trompe, mais...
C'est vrai que quand on parle de street art, on a tout de suite en tête cet aspect un peu urbain et revendicateur. Mm-hmm. Et c'est vrai que pour le coup, nous, on ne se place pas du tout sur cette image-là du street art. On est plus sur des choses contemporaines qui vont plutôt fédérer plutôt que revendiquer.
Ou créer du débat.
Et oui, mais créer non, du mais, débat, mais dans sur des points positifs.
On ne crée pas du débat sur des sujets.
Typiquement, Camille t'en parlera mieux que moi, mais quand on fait des fresques sur la grande thématique des femmes dans l'espace public,
ouais,
on va créer du débat dans des quartiers sur l'image de la femme, qu'est-ce que ça évoque pour différents publics. Et là où je disais fédérer et en même temps avoir du débat, c'est aussi apporter par le biais des arts visuels que tout le monde peut voir et a accès gratuitement parce qu'on est sur l'espace public, apporter aussi des questionnements sur des faits de société, des sujets de société qui sont un petit peu ceux du moment. Après, je ne sais pas si c'est la majorité de nos projets pour le moment qui sont axés là-dessus, parce qu'on n'est pas une association et on est vraiment vu comme une entreprise. Donc voilà, je ne sais pas si on a cette image, en tout cas politique, etc.
C'est intéressant d'avoir votre avis parce qu'il y en a qui vont se revendiquer street illustrateur, d'autres spécialistes du street art marketing. Enfin, cette appropriation, du mot street art peut prendre différentes facettes et se moduler. Aujourd'hui, je vois que le street art est encore associé, pour vous en tout cas, à l'esprit un petit peu des origines où on revendique une idée ou la volonté de faire passer un message. Et c'est intéressant de voir que votre perception, elle est plus dirigée sur les arts visuels au sens entier du terme, avec cette notion d'être inclusive, de fédérer ou de générer en tout cas un échange autour du sujet. C'est bien ça, vous me dites si je me trompe. Ok, je switch, je passe à une autre question. Aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, on est en pleine effervescence de l'intelligence artificielle. On en parle partout, ça a fait une évolution de dingue. Parfois, c'est hyper flippant, on est d'accord. Vous qui êtes dans le manuel, qui êtes dans le concret, vous touchez la matière, vous touchez les outils. Bah, j'aimerais bien avoir votre avis. Vous en pensez quoi de cette IA? Comment elle peut booster ou... un petit peu peut-être mettre un coup de pied dans la fourmilière dans votre secteur. Dites-moi tout.
Alors, pour le coup, moi, j'ai on s'y intéresse un peu tous, je pense, en ce moment. Mais pour le coup, j'ai pas du tout ce côté peur ou négatif comme avis hein, sur les IA. Je pense que l'IA, et comme à peu près toutes les grandes innovations, ça va être juste un outil qui va se rajouter à la palette d'outils qui existait déjà avant. L'IA, moi, typiquement, j'utilise un petit peu au quotidien. Ça va être, si j'ai quelque chose à rédiger qui va prendre beaucoup de temps, je vais utiliser de l'IA pour qu'elle développe tous les concepts que je vais lui donner et pour me accélérer cette tâche-là dans la journée. L'IA, on ne l'a pas encore intégré à notre système, on va dire, et à notre manière de travailler, je ne sais pas, à la main. Je pense qu'un jour, ça arrivera quand on aura fait les bonnes formations et ça sera peut-être un peu plus démocratisé pour tout le monde. Mais typiquement, sur la partie vraiment créativité et notre travail avec les artistes, pour l'instant, on ne l'a pas du tout intégré. Et je ne vois pas à quel moment, d'ailleurs, ça nous aiderait d'intégrer une IA sur ce travail-là. L'IA, ou en tout cas, comme elle est maintenant, je ne sais pas ce que ce sera dans 2 ou 3 ans. Mais l'IA, en tout cas, elle a encore besoin des concepts humains, de la réflexion humaine. Et l'IA n'est pas capable pour le moment, en tout cas je pense, de créer quelque chose qu'un humain et sa culture et sa connaissance du milieu apportent.
Oui, bah, de toute façon, maintenant, l'intelligence artificielle, elle est là. Donc, il n'y a pas à être pour, contre ou avoir peur ou pas peur. De toute façon, elle est là. Donc, je pense qu'autant que ça nous serve, et je pense que ça peut au contraire servir beaucoup, beaucoup de notre secteur, mais pas que le nôtre, sur beaucoup de domaines très variés. Et ça mettra la part belle d'autant plus au travail manuel. Les deux ne sont pas incompatibles. Justement, le fait de, peut-être, de, comme le disait Dimitri, faciliter certaines tâches via l'intelligence artificielle va encore plus mettre en avant les peintres en train de s'acheminer sur une façade avec des pots de peinture, des pinceaux ou de rénover un terrain de sport ou etc. etc. Ça mettra d'autant plus le savoir-faire manuel en avant, l'artisanat qu'on a perdu fut un temps à mes yeux, en tout cas dans le, au sein de la société, et qu'on remet de toute façon et qu'on défend bec et ongle chez Pain à la Main. Et les deux sont au contraire vont très bien vivre ensemble, je pense.
Si je pouvais ajouter un petit truc à ce que je disais, et comme disait Camille, c'est vrai que ça nous aide sur des tâches qui sont en général longues à faire et qu'on pourrait ne pas faire nous-mêmes. Et du coup, ça nous laisse beaucoup plus de temps pour faire des choses vraiment importantes. Donc moi, l'IA, c'est comme ça que je la vois.
Tu la vois comme un outil.
Une aide qui va me faire gagner du temps pour faire passer plus de temps sur les choses qui comptent.
Merci de m'avoir donné votre avis. C'est une question que je pose à chaque fin d'interview. L'IA, pour moi, ben, je vais tester les avis et puis les réactions. En tout cas, pour vous, l'IA, c'est un outil, c'est une aide à la création ou en tout cas à la productivité pour gagner en rentabilité. Et ça permettra, si je traduis, de vraiment créer une différence, une distinction énorme entre le travail de la main et le travail réalisé par une intelligence artificielle. Je vous emmène tout doucement sur cette fin d'interview, le fameux checker. Alors le checker, si vous êtes prêts, c'est un enchaînement de questions plutôt courtes et des réponses assez courtes également. Est-ce que vous êtes prêts?
Bah, on va essayer.
On va voir.
Vous pouvez répondre en même temps, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti.
Tu commences et je réponds après. Ou l'inverse si tu veux.
On va faire tout en même temps.
Tout en même temps.
C'est génial, une belle cacophonie. Allez, votre sirop.
Grenadine.
Citron.
Votre mood au petit déjeuner.
Je mange pas.
Grognon.
Votre couleur.
Noir.
Vert.
Votre style.
Vintage.
Classique.
Votre artiste.
Artiste, ouh, dure question.
Elle est dure celle-là.
Madame et Turner.
Oh la vache.
Il y a trop. Là, c'est le choix.
Ouais, non, mais là, c'est.
C'est comme si vous demandez les films préférés à des réalisateurs, quoi.
Ouais, je sais, c'est pas sympa.
Moi, je dirais Vermeer, donc rien à voir.
Ah ouais.
Un projet.
De nous ?
Peu importe, un projet.
Ah bah, dernièrement, l'opéra de JR et un projet de chez Palm. Purement artistique, avec du sens pour les habitants, je dirais notre façade avec Eva Zézir à Villetaneuse, qui a été des très beaux moments d'échange sur place en tout cas.
Ok.
Moi, un projet qui m'a marqué, qui me marque encore parce qu'on est, on est encore en train de le réaliser avec eux, c'est de faire le dialogue entre les peintures murales et tout le domaine d'activité de l'Accor Arena, donc qui englobe la musique, les performances, le sport, le théâtre, sur plein de choses. Comme on intervient sur l'ensemble du site, je trouve que le dialogue est assez beau.
Votre dernier mot ?
Bonne journée et à bientôt.
Mon rêve, ouais.
Carpe diem.
Non, je dirais. C'est trop une caricature. Mais je dirais sortir de sa zone de confort et y croire. Mais je sais que tout le monde veut dire ça.
Forcément. Je te remercie, Dimitri, sortir de sa zone de confort et y croire. C'est une super belle fin, une belle conclusion. Je vous remercie à tous les deux. Merci infiniment. C'était super convivial, très agréable. J'espère que ça vous a plu. Oui,
bon.
Je vous dis à bientôt et je dis à ceux qui nous écoutent à bientôt pour un prochain épisode.
Merci beaucoup. À bientôt.
J'espère que cet épisode t'a plu. J'ai adoré partager ce moment avec toi. Pour soutenir C'est comme du sirop, fais du bruit sur tes réseaux sociaux et partage l'épisode. Je te donne rendez-vous le mois prochain et moi, je vais me servir un bon sirop bien frais.